W. Émission spéciale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aux élections en Afrique, notamment les scrutins présidentiels de 2020 sur le continent. Avant toute chose, je vous présente tous mes vœux de bonnes et heureuses années en ce 1er janvier, jour de l'an 2020. Vous le savez, sera une année électorale en Afrique, élection présidentielle de février au Togo, en mai au Burundi, fin 2020 en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso, en République centrafricaine, au Niger, sans oublier les élections législatives et locales dans plusieurs autres pays. Les élections prévues en 2020 seront-elles apaisées, crédibles et transparentes? Va-t-on assister à un renouvellement de la classe politique dans ces pays qui organiseront donc ces élections? Avec nos invités, nous allons essayer de décrypter toutes ces problématiques. Lui, Kemayo, journaliste, analyste politique et président du club de l'information africaine basé à Paris. Bonjour Luc Maillot.
Bonjour.
Nous sommes également accompagnés d'Emmanuel Dupuis, le président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuis.
Bonjour Eric, bonjour à Louis et bonjour aux éditeurs évidemment.
Voilà. Nous sommes également en compagnie de M. Rodrigue Koné, qui est en ligne d'Abidjan. Rodrigue a plusieurs titres. Alors Rodrigue, dites-nous exactement.
Non, je ne suis pas vraiment Audrey Koné, je suis sociologue de formation et je collabore avec l'African Security Sector Network, un think tank africain qui travaille sur les problématiques sécuritaires en général.
D'accord, merci pour la précision. Éric Topona à la modération de ce débat, merci de votre fidélité.
DW, le monde à votre portée.
Comme je l'ai dit, beaucoup d'élections auront lieu sur le continent, notamment d'élections présidentielles. Au Togo, c'est dans à peu près un mois, en février. Alors Luc Kemayo, vous rentrez de Lomé. Dans quelle ambiance les Togolais attendent ce scrutin présidentiel?
Je crois que c'est une ambiance qui est à la fois sereine, parce que les forces de l'ordre et les autorités, de ce que j'en ai vu, ont mis les petits plats dans les grands pour que cela se passe bien. Espérons que la promesse sera tenue. D'autre part, c'est historique parce que c'est au Togo qu'a eu lieu le premier coup d'État sur le continent africain. Sylvanus Olympio avait été assassiné alors qu'il ne dirigeait le pays qu'il y a 3 ans, en 1963. Donc c'est quelque chose de très important pour ce pays d'arriver au moment critique qui est celui de cette élection de février pour plusieurs raisons. Il y a celle-là, naturellement, et puis il y a celle aussi du fait que c'est la première fois qu'on a une élection du président de la République à 2 tours au Togo, avec une limitation de mandat à 2 mandats, et puis surtout la participation des Togolais de l'extérieur. Donc grosso modo, il y a de très grosses attentes, et tout le monde espère que la réaction à la fois des autorités togolaises et de l'opposition togolaise sera au rendez-vous des attentes de la population, parce que c'est la première fois qu'elle participe à une présidentielle aussi ouverte sur la forme que c'est le cas de celle à venir.
Oui, pourtant, beaucoup d'analystes ne croient pas à la sincérité de ce scrutin présidentiel, comme ce fut le cas les fois passées.
Oui, ils ne croient pas. Pour les législatives, ils n'ont pas cru. Pour les locales, ils n'ont pas cru. Elles ont eu lieu. Et je salue surtout la participation des chefs d'État voisins qui se sont énormément impliqués dans la médiation pour que ce processus électoral soit exemplaire. Il faut aussi relever que c'est une élection qui sera entièrement financée par le Togo lui-même. Ça peut paraître banal, mais c'est pas dans tous les pays africains que les élections sont prises en charge par le budget national. Donc ce sont tous ces éléments qui font que on peut certes avoir des procès d'intention en direction du gouvernement togolais et des autorités en charge de l'élection, mais il faut surtout attendre de voir comment les parties prenantes pourront faire la différence lorsque ce sera l'heure des élections. Parce que, mine de rien, on est dans un pays quand même qui était l'une des dictatures et l'une des représentations de la France-Afrique les plus fortes. Et elle est en train de changer aujourd'hui. cette représentation de l'image du Togo à la fois dans l'opinion et dans la réalité des faits.
L'opposition a boycotté les élections législatives. Visiblement, elle est en ordre de marche. Avait-elle commis l'erreur de boycotter les élections législatives passées?
Généralement, on dit que les absents ont tort. Par moment, il y a des boycotts qui sont importants parce qu'ils permettent de faire passer des messages. Mais dans le cadre des élections qui viennent de passer, d'avoir lieu, je pense aux législatives et aux municipales et aux locales, je crois que l'implication des chefs d'État que je relevais tout à l'heure, à la fois celui du Ghana et celui de la Guinée-Conakry, était telle que il était important que tout le monde joue le jeu. Et c'est dommage que l'opposition n'ait pas joué le jeu jusqu'au bout pour être dans l'appareil qui a permis de fabriquer les lois qui permettent, qui rendent cette élection possible aujourd'hui. Mmh. Donc le dialogue a commencé, mais il n'est pas allé à son bout. Et c'est dommage. Mmh. Mais on ne peut pas stigmatiser qui que ce soit. Elle avait probablement ses raisons, l'opposition, de ne pas y aller. Il y a l'opposition parlementaire, il y a l'opposition extra-parlementaire. On verra bien comment les deux oppositions se comporteront lors du rendez-vous de la présidentielle.
Oui, Tensi. Alors, Rodi Koné, vous êtes ivoirien, vous suivez sans doute l'actualité politique au Togo. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Luc Maillot par rapport à la présidentielle de février au Togo?
Oui, je pense qu'il faut être quand même optimiste. On sait que la démocratie, en tout cas telle qu'elle tient en marche dans les pays africains, depuis, on va dire globalement depuis 90, a rencontré beaucoup d'embûches, mais chemin faisant, je pense qu'il y a aussi un ensemble de mécanismes qui ont été que les États se sont réappropriés, et l'opposition également, dans des situations quand même difficiles, chacun plus ou moins a tiré expérience de l'histoire. Et donc, je pense qu'en se basant un peu sur ce capital expérience, il faut quand même être optimiste, quoique il y a des réelles raisons quand même de s'inquiéter sur l'ouverture un peu de ce mécanisme, je dirais, de choix de façon libre des citoyens. Mais je pense qu'il faut garder quand même espoir.
On sait qu'au Togo, il n'y a jamais eu d'alternance démocratique. Il y a eu une dévolution du pouvoir de père en fils en 2005. Est-ce qu'il n'était pas temps, peut-être comme le pense l'opposition et une partie de la société civile, que le président Faure Gnassingbé, qui a totalisé 4 mandats, puisse déjà passer la main?
Oui, c'est, l'aspiration est totalement légitime. Hein. Dans un système démocratique, l'alternance se positionne comme une clé majeure du renouvellement non seulement de l'élite politique, mais surtout en profondeur des politiques publiques et de la prise en charge des défis nouveaux sans cesse changeants qui se posent à une société. Mmh. Et donc, c'est tout à fait légitime qu'il y ait du côté de l'opposition ou encore même au sein de la population globale du Togo un désir d'un renouvellement si on rattache la figure de Faure Gnassingbé à celle de son père, à cette longue tradition de gouvernance du parti du père. Donc, c'est tout à fait légitime qu'il y ait. Mais une fois de plus, je pense que les enjeux majeurs restent fondamentalement ceux, je dirais, d'une gouvernance plus stable. Et la question de la stabilité, à mon avis, est véritablement, et là, on ne cesse de le dire, sans stabilité, il n'y a pas de développement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas, a priori, jeter l'anathème sur une personnalité ou une figure en particulier, et que le jeu soit le plus ouvert possible, qu'on donne la chance à chaque acteur de prévaloir, de présenter ses ambitions pour le pays. Tout le monde a droit, et selon, dans le respect des règles. Et je pense que l'esprit démocratique, effectivement, il nécessite ou il demande qu'il y ait ce mécanisme d'alternance, de changement des élites, de changement des politiques publiques. C'est un élément clé. Ben, il faut comprendre aussi toute l'histoire aussi de ces pays-là pour ne pas peut-être aller très rapidement à je dirais, verser le bien avec le bébé en même temps. Il faut, à mon avis, réfléchir à profondeur pour créer des mécanismes qui soit assez adapté aux réalités locales.
D'accord, nous allons aborder tout à l'heure le cas ivoirien, hein, le cas de la Côte d'Ivoire, votre pays, mais je vais donner la parole à Emmanuel Dupuis qui est apparemment s'impatiente. Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de la présidentielle de février? Est-ce que, comme les deux autres intervenants, Luc Maillot et Rodi Koné, vous pensez qu'il y a eu des innovations, un scrutin à deux tours, la diaspora qui va voter? Est-ce que ce sont des gages de crédibilité, de transparence?
Oui, écoutez, alors c'est une situation que je connais particulièrement bien, puisque à l'occasion des précédentes élections locales qui se sont tenues en juin 2019, mon institut avait fait un sondage qu'on avait intitulé Togoscopie, où on avait justement sondé la société civile togolaise, et notamment les jeunes, pour voir quelles étaient leurs aspirations et quels étaient les sujets, les grands thèmes sur lesquels, évidemment, les Togolais souhaiter que ce processus électoral puisse se poser. On était bien évidemment dans les élections locales, mais je crois que les questions demeurent particulièrement prégnantes à l'occasion des prochaines élections présidentielles du 22 février prochain. Et d'une certaine façon, mes deux prédécesseurs ont résumé plus ou moins ce que je voulais dire. Premièrement, ces élections arrivent dans un contexte totalement différent du précédent, puisque la médiation de la CEDEAO avait évidemment mis en exergue le fait qu'il faille que l'opposition participe au scrutin, chose qui n'avait pas été possible, eu égard aux manifestations violentes, faut-il le rappeler, qui avaient un petit peu écorné le processus électoral. On est dans une autre configuration où vraisemblablement, suite à l'intervention du président Alpha Condé et du président Ado Akufo, il y a eu évidemment une amélioration, en tout cas une perception plus positive de ce processus.
Mais Emmanuel, ce qui pose problème au Togo, c'est que on suppose que le président Faure a déjà totalisé 4 mandats et qu'il fallait qu'il se retire. Il aurait pu peut-être proposer un autre candidat de son parti. C'est ce que pense l'opposition.
Sans doute, mais l'opposition apparaît quand même très, très clairsemée. Il n'y a pas une claire opposition pour savoir qui est ou qui serait le candidat qui pourrait aller à l'encontre ou poser une alternative. À l'occasion du sondage que nous avions posé, la question avait été particulièrement prégnante quand on avait posé la question de savoir quelle serait la personnalité politique qui serait le plus à même d'incarner une alternative. Et il n'y a pas eu un élément, comment dire, une personnalité, que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Achaman Tipi, que ce soit Kodjo Adedze ou d'autres candidats, bien évidemment, avec Boyimé Kodjo ou avec Boybor, aucun des candidats n'apparaissait comme celui qui clairement pouvait marquer cette opposition.
Mais pourtant, Tipi Akadam fait partie quand même des leaders qui montent, non, des ovnis politiques au Togo, même s'il vit caché là depuis quelques années.
Absolument. Et c'est peut-être là que je voudrais peut-être apporter un élément supplémentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Je crois que cette élection, comme l'ensemble de celles que vous avez citées, avec évidemment une prégnance très particulière pour celles qu'on va regarder avec beaucoup d'attention, que ce soit celles en Centrafrique en décembre prochain, ou que ce soit évidemment les prochaines, en l'occurrence les plus celles qui vont arriver très très vite, les élections notamment législatives d'abord en Guinée en février, puis présidentielles en octobre 2020, avec un phénomène qui, faut-il le rappeler, est en train de gagner la planète entière, c'est celui de la mobilisation de la rue. Et de ce point de vue, on peut penser que l'opposition, qui est jusqu'à présent était une opposition clairsemée politiquement, à travers des partis politiques qui, évidemment, n'arrivaient peu ou prou à s'entendre. Il y a une nouvelle opposition qui est celle d'une mobilisation citoyenne. On l'avait vu d'ailleurs en 2014 au Burkina Faso. On est en train de le voir s'installer comme, et c'est peut-être là l'élément nouveau, comme un élément d'alternative politique. L'exemple de l'Algérie est particulièrement prégnant. Il y a eu des élections il y a quelques semaines en Algérie avec un président qui a été élu avec un taux de participation faible, donc une légitimité intérieure et extérieure amoindrie. Et puis les manifestants continuent chaque vendredi et ce sera le cas aussi en 2020 à battre le pavé. Donc on voit bien qu'il y a cette épée de Damoclès où des présidents pourraient certes ou seront évidemment élus avec des scrutins plus ou moins transparents et une remise en cause certaines, ou en tout cas dans certains cas de figure, du processus électoral, et semble-t-il, ou je pense qu'il y aura, que ce soit en prenant exemple sur l'exemple algérien, ou encore récemment, il y a quelques mois, l'exemple soudanais, une mobilisation de la rue, le manifestant sera, je pense, de plus en plus présent dans ces élections. C'est particulièrement vrai au Togo, où évidemment, l'attention médiatique avait été figée à l'occasion des dernières élections locales. sur la manière dont l'État répondait à cette mobilisation.
D'accord. Voilà. Si on a le temps, on va évoquer le cas des pays qui organisent aussi des élections législatives. On le verra. On va peut-être marquer une petite pause avant de revenir parler de la
Côte
d'Ivoire.
Vous avez signalé quelque chose.
Oui, allez-y.
Avant de terminer, c'est que vous avez signalé le cas Tikpia Tchadam, mais Tikpia Tchadam est un opposant assez atypique parce que non seulement il ne veut pas accéder au pouvoir, mais c'est la grosse révélation de ces dernières années. On avait l'impression que l'opposition togolaise ronflait, qu'elle l'avait perdu de sa superbe, et il est venu réveiller cette opposition en montrant qu'il était encore capable de tenir la rue. Il tient la rue, mais je pense qu'il ne tient pas à gagner le pouvoir en lui-même. Et donc il est là comme un agitateur de foule, plus que comme un candidat à une élection, quelle qu'elle soit.
D'accord, voilà.
Si vous me permettez justement de compléter ce que vous
dites. Très rapidement, Emmanuel.
C'est très, très rapidement. Justement, dans le sondage que nous avions fait, donc on avait intitulé « Togoscopie » dans le cadre de mon institut, il y avait une réponse qui nous avait effectivement interpellé. On avait posé la question, à l'occasion des prochaines élections présidentielles, souhaitez-vous que ce soit la majorité ou l'opposition qui l'emporte ? Majorité 31%, opposition 32%. Donc on voit bien qu'il y a... paradoxalement, des voix qui s'élèvent contre la présidente qui se présente évidemment dans le cadre d'une configuration d'un quatrième mandat qui pourrait apparaître comme tout à fait anormal, et en même temps une opposition certes forte, mais qui pour l'instant ne s'exprime pas totalement dans une volonté d'accès au pouvoir.
D'accord. Comme nous sommes le 1er janvier, on va peut-être marquer une petite pause musicale avant de poursuivre donc ce débat. Vous écoutez toujours l'émission spéciale consacrée aux élections en 2020 sur le continent africain. On va aborder maintenant le cas de la Côte d'Ivoire. Rodrigue Koné, vous êtes donc en direct d'Abidjan. Apparemment, les Ivoiriens attendent cette élection avec une grande impatience.
Oui, en effet, je pense que depuis 2010, ça sera l'élection... qui va polariser beaucoup plus, je dirais, les tensions, parce qu'en 2015, il y a eu une élection présidentielle, mais les enjeux n'étaient pas aussi grands que celles de 2020. Et à mon avis, ces enjeux-là se déroulent autour de globalement trois points. D'abord, comme j'ai dit, cette élection sera très concurrentielle. Quand on voit depuis 2018 comment la scène politique, l'arène politique, reconfigurée, elle est beaucoup plus fragmentée. Je rappelle qu'après 2010, le rassemblement des républicains autour du président Alassane Ouattara était pratiquement l'acteur hégémonique sur la scène politique. Et donc, il n'y avait pas véritablement de grande concurrence, mais cette coalition, à partir de 2018, globalement, s'est fissurée en trois entités, entre un noyau dur qui reste autour de la figure d'Alassane Ouattara, un second groupe, notamment le PDCI, qui était en alliance avec dans le RHDP avec le RDF, désolidarisé de la volonté d'Alassane Ouattara de transformer le RHDP en un parti en un parti. Donc le PDCI affirme clairement son ambition de reconquérir le pouvoir qu'il a perdu d'ailleurs en 1999 à travers le premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Et la figure de Henri Konan Bédié, qui avait donc été déposé par ce coup d'État, se repositionne comme étant, je dirais, l'acteur autour duquel le PDCI souhaiterait en tout cas reconquérir ce pouvoir, même si officiellement il n'y a pas encore une proclamation de la candidature de M. Henri Konan Bédié.
Donc Henri Konan Bédié veut reprendre ou bien prendre sa revanche, hein, c'est ça?
Il n'y a pas de discours officiel, mais quand on voit la manière dont se structure cette proposition, notamment au niveau du PDCI, on se voit très bien qu'elle se structure autour de la personne de Henri Konan Bédié. Et une troisième entité qui présente un visage beaucoup plus jeune, mais très connu, il s'agit de Guillaume Soro, qui était chef donc de la rébellion, qui a occupé les zones nord, centre et ouest de la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2010. Et donc la fille de Soro Guillaume, qui a été premier ministre sorti de la crise, ensuite deux fois président de l'Assemblée nationale et qui en début 2019, là, a démissionné de l'Assemblée nationale et a clairement, en octobre dernier, affirmé son intention de reconquérir le pouvoir d'État. Donc, ces élections-là sont concurrentielles déjà à ce premier niveau.
Et est-ce que vous ne craignez pas des troubles vu que, voilà, la tension est déjà perceptible, hein?
Oui, je pense que ça aussi, c'est le troisième défi que justement j'allais mettre en avant. Mais avant d'en arriver à ce défi, il faut voir l'un des gros enjeux de cette élection, à mon avis, sera est-ce qu'elle nous permettrait de faire une transition ou pas. Une transition entre ce que je pourrais appeler la période populiste ou la philosophie politique populiste, qui d'ailleurs n'a jamais été aussi vivante que pendant sa mort, hein, parce que après le chiffre de sa mort, tout le monde se réclame de lui. En tout cas, cette génération de politiques qui ont gouverné avec lui ou qui ont...
Tout le monde est oufouettiste.
Voilà, tout le monde a réclamé son héritage, ainsi de suite. Et donc, il y a cette génération qui, à mon avis, est presque en fin de parcours, mais qui, à mon avis, souhaite encore remplir.
Mais le président Ouattara a clairement pris l'engagement de passer la main. Ça veut dire qu'il y a même une intention d'alternance, non?
Oui, ben, il a ajouté tout de suite après aussi que si ses frères de la même génération veulent se présenter, il se présentera. Donc on voit très bien qu'il y a cette volonté-là de la part, je parlais dans une vidéo tout à l'heure, également de Laurent Gbagbo, même du moins de d'Alassane Ouattara, et même de Laurent Gbagbo, dont le noyau au sein du FPI souhaite encore son retour.
Rodrigue Conné, désolé de vous couper, je vais peut-être donner aussi la parole aux autres, parce que le temps file très vite, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Luc Mayo, l'élection d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, ce sera l'élection de tous les dangers?
Malheureusement, oui, parce que quand on voit comment la situation se présente et comment les acteurs eux-mêmes se préparent à cette élection, cela n'augure rien de bon en termes de sérénité dans l'élection et surtout par rapport à ce que les Ivoiriens attendent dans leur grande majorité. Parce que de mon point de vue, 2005 aurait dû être l'élection de la réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation et au-delà de la réconciliation qui n'a pas été au rendez-vous, on a aujourd'hui une famille du RHDP hyper divisée. Donc la tension qu'il y avait dans le camp par rapport au camp d'en face, elle s'est transposée dans le camp de la majorité présidentielle. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce que ce ne sont pas de petits partis qui sont partis, de petits leaders qui se sont séparés de Alassane Ouattara. Ce sont quand même Henri Konan Bédié, qui est le patron du parti historique de Côte d'Ivoire, celui de Oufouette Boigny. C'est également Guillaume Soro, qui a été un élément sur le plan militaire très important pour la conquête du pouvoir en 2010. Lors de l'élection contre Laurent Gbagbo. Et donc, je crois que ce sont des éléments aujourd'hui qui doivent être mis dans la balance pour comprendre à quel point l'élection qui arrive en 2020 sera une élection cruciale pour la Côte d'Ivoire.
Oui, mais Luc Mayo, est-ce que le président Ouattara n'a pas tout de même raison constitutionnellement d'être candidat, puisque la constitution ivoirienne a été modifiée, hein, je crois, en 2016 hein?
Ben, c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est moralement acceptable et qu'on doit fermer les yeux sur les conséquences éventuelles que cela peut avoir. Je rappelle juste, ça ne veut peut-être rien dire, mais l'esclavage était légal, hein. L'apartheid aussi a été légal. Donc, c'est pas parce que quelque chose se passe mal et que la loi le permet qu'on doit perpétuer cette chose qui n'est pas normale.
Mais est-ce que le bilan du président Ouattara ne plaide pas en sa faveur? Je ne suis pas en train de le défendre, mais objectivement.
Son bilan plaide pour lui comme le bilan de Barack Obama plaidait pour lui. Pourtant, il a fait deux mandats et il s'en est allé. Personne n'a idée aujourd'hui d'imposer une situation qui pourrait être explosive dans son pays, voire... Enfin, quand on voit tout ce par quoi la Côte d'Ivoire est passée ces dernières années, on est quand même fondé de se dire que la responsabilité des hommes politiques, c'est d'éviter de souffler sur les braises. Et cette génération, la plupart des Ivoiriens n'en veulent plus. Que ce soit le camp de Laurent Gbagbo, que ce soit celui de Guillaume Soro, celui de Henri Konan-Bédié ou de Alassane Ouattara, c'est une classe politique aujourd'hui qui est datée et qui doit passer la main.
Donc la solution, c'est que les trois éléphants, hein, comme l'a titré Jeune Afrique cette semaine, disons en décembre, puissent s'effacer, hein, Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo.
C'est leur responsabilité individuelle. C'est-à-dire, l'idée ici n'est pas de dire il faudrait que un ou l'ensemble parte. C'est qu'ils devraient se sentir moralement responsables de ce qui s'est passé et donc sur le plan moral se dire on peut passer la main aux jeunes loups de nos partis pour qu'ils continuent le combat que nous avons commencé. S'ils se réclament de Oufouet Boigny, c'est pas parce que Oufouet Boigny est là, c'est parce que Oufouet Boigny est parti. Il faut bien qu'ils partent pour que quelqu'un d'autre perpétue le souvenir à la fois de leur politique, de leur réalisation et pourquoi pas fasse vivre l'idéologie qui les a portés au pouvoir.
D'accord. Alors, Emmanuel Dupuis, est-ce que la solution passerait par un retrait des principaux acteurs de la vie politique nationale et que le président Ouattara, par exemple, ne se représente pas à cette élection présidentielle de 2020?
Mais écoutez, en tout cas, ce serait faire référence au loufouettisme dont chacun des candidats essaye de faire référence, peut-être à l'exception du FPI et encore. Mais je crois qu'on est dans une situation que l'on peut comparer à ce qu'on a connu en France avec la fin du gaullisme, avec effectivement la fin d'un cycle, d'une référence, et des jeunes loups, comme vous les appelez, qui ont essaimé en essayant de moderniser une pensée structurante de la vie politique d'un pays. Je crois que le loufouettisme a été un point de référence pour l'ensemble de la vie politique, avec évidemment les soubresauts de la guerre civile, avec là aussi des oppositions à double niveau, des oppositions entre partis politiques, vous l'avez évoqué avec le PDCI, le Front Populaire Ivoirien, mais évidemment avec le Rassemblement des Républicains créé par et pour le président Ouattara, mais aussi des crises internes, avec là aussi une volonté générationnelle, que ce soit au niveau du FPI ou Pascal Affiguessan veut continuer à incarner son leadership et avec d'autres personnalités qui veulent rappeler un héritage, notamment lié à la famille Gbagbo. Donc je crois qu'on est dans une situation qui politiquement est riche et dense, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Le problème vient du fait que cette vivacité politique vient s'agglomérer, si j'ose dire, avec une situation qui, militairement ou sécuritairement, est peut-être beaucoup plus instable. Je pense notamment au fait que, par exemple, il puisse y avoir un nouveau front qui puisse s'ouvrir entre les deux frères ennemis. Je pense notamment à la rencontre qui a eu lieu à La Haye le 24 novembre dernier entre Guillaume Soro et Charles Bigoudé, qui se sont fait la guerre et qui pourraient potentiellement arriver en disant la vie politique telle que nous l'avons connue n'est plus la solution pour les Ivoiriens, nous proposons une autre alternative politique. Donc ça, c'est peut-être un élément qu'il faut avoir à l'esprit. En tout cas, c'est précisément celui qui a amené le président Emmanuel Macron à venir en Côte d'Ivoire le 22 décembre dernier pour essayer de tenir compte de ce qui semble être effectivement la menace ou la potentialité d'une élection qui pourrait être fortement chrysogène. En tout cas, pour rappeler que un certain nombre de pays, la France mais également les pays du voisinage, regardent avec beaucoup d'attention la manière dont ce scrutin va se tenir. Premièrement, comme vous l'avez rappelé, il y a eu une révision constitutionnelle en novembre 2016, avec un changement de nature du pouvoir, une troisième république, une présidentialisation du pouvoir assez forte et qui
avait justement pour principe et pour objectif d'éviter une hyper-présidentialisation que le président Ouattara laisse encore une fois planer, même si il n'a pas officiellement dit qu'il serait candidat, mais ça a été rappelé par mes deux co-débatteurs, il pourrait être candidat si ses anciens partenaires et nouveaux opposants décide de revenir au combat. Je pense notamment au vieux lion Henri Conan Bédier.
D'accord. Alors, Rodrigue Conan, vous êtes donc à Abidjan. Très rapidement, que pensent les Ivoiriens de tout ça?
Justement, je pense que mes prédécesseurs ont très bien résumé la situation en disant qu'il y a une soif au niveau des populations, hein, globalement, qu'il y a un changement, parce que nous sommes dans une sorte d'anachronisme. Hein. On a une élite politique, un leadership politique qui date, je dirais, de la période de Fouette Boigny, du Parti unique. Même vous l'aurez remarqué qu'au sein de chaque parti politique, il est difficile qu'il y ait une démocratie interne, une personnalisation des pouvoirs politiques. Et donc ça, c'est, je dirais, des reliques de la période de Fouettiste qui s'exprime dans un contexte où les générations ont totalement changé. 77,73% de la population ivoirienne est en dessous de 35 ans. Et il y a véritablement cette volonté de pouvoir tourner la page d'une élite qui a déjà 70 ans et qui s'agrippe et maintient pratiquement dans les anciens schémas. Et donc cette contestation et cette volonté de changement, on le sent déjà au sein de la population. Les élections législatives et municipales passées ont montré clairement qu'il y avait une contestation au sein des partis de cette élite gérontocrate. Et il y a beaucoup d'indépendants qui sont sortis de ces partis et qui ont la moyenne d'âge d'environ 40 jusqu'à 50 ans. Et donc, on voit effectivement qu'ils ont été élus. Et donc, ça, c'est un indicateur à tout clair qu'il y a une volonté de changement.
Et quelles sont les chances de Guillaume Soro qui est jeune? Donc, ça veut dire qu'il soutient, non?
C'est ça, tout à l'heure, à parler de cette dimension générationnelle, notamment de cette rencontre inédite qu'il y a eu avec les Boudet et Soro Guillaume dernièrement. Et je rappelle que ces deux hommes politiques ont été des leaders très forts de contestation.
À la Fessie, notamment.
À la Fessie, justement. Qui connaît l'histoire de la Fessie, c'est elle qui, pratiquement, a contesté de façon bruyante et forte.
Mais est-ce que ça ne serait pas une alliance contre nature, alliance entre Blégoudé et Soro?
Je ne pense pas. Je pense que tous deux sont nourris à la sève. Des partis gauchistes ont été très proches du FPI et se sont donc séparés dans le jeu des intérêts là après le coup d'État de 1999. À mon avis, ils ont des profils similaires. Ils sont issus de familles inconnues. Ce ne sont pas des familles de patrie. Il faut rappeler que le système de cette année se positionne sur des élites et qui ont été fabriquées pendant la période coloniale, qui ont ensuite été copié par le système Oufet Boigny et donc il y a un ensemble de grandes familles comme ça qui créent des sortes de classes de riches qui gouvernent. Et de l'autre côté, vous avez donc ces jeunes qui sont venus de nulle part et tout cela, qui se réclament, je dirais, d'une classe de petits inférieurs. Et à mon avis, le fait qu'ils aient une histoire commune ensemble, une expérience syndicale, et quand ils se soient séparés pendant la crise, je pense qu'ils ont envie de jouer un bon coup ensemble. Parce que il faut remarquer que la crise de 2002 a été portée de part et d'autre par ces jeunes. Pendant cette période politique, pendant cette crise, ce sont les jeunes qui ont pratiquement porté le pouvoir des aînés. Et à l'issue de cette crise en 2010, quand la stabilité est revenue, presque les élites ont repris la main et ont mis pratiquement de côté ces jeunes générations. Et à mon avis, elles veulent vraiment avancer. Elles pourraient, en jouant sur la carte générationnelle, avoir le mot à dire dans cette élection.
D'accord. On va certainement suivre l'actualité ivoirienne sur la Deutsche Welle. On va marquer encore une toute petite pause musicale avant d'aborder le cas de la Guinée, Conakry et du Niger.
si posé, m'en te cueilli par les bas, m'en te même oublié, ça m'en te cali poché, ou un seul coup d'y a pas moins craqué. M'en te cueille résister. Prends temps pour nous te parler. Collez, serrez-vous, te cadencer. Si nous te prends temps pour nous te causer. Collez, serrez-vous, te cadencer. Si nous te prends temps pour nous expliquer.
Nous sommes donc le 1er janvier 2020. Vous écoutez la Deutsche Welle spéciale élection 2020 sur le continent. La Guinée qui baigne donc dans une période d'incertitude avec les velléités du président Alpha Condé d'élaborer ou bien de faire élaborer une nouvelle constitution. Luc Emayo, le pays risque aussi des périodes de tension, non? Vous ne trouvez pas?
Le pays est sous tension permanente depuis la mort de l'Antana Conté. Ça commence à dater. Hein. L'on est tenté de dire que c'est devenu une seconde nature aujourd'hui pour la scène politique guinéenne. Il y a eu l'épisode Moussa Dadis Camara qui n'a pas été exempt non plus de violence, notamment les manifestations qui ont été réprimées dans le sang et sur lequel le procès continue et les enquêtes également. Donc je crois que non, il y a un antagonisme aujourd'hui en Guinée malheureusement qui a dépassé le terrain politique pour s'ancrer dans le préau de l'ethnie. Et je crois que le fait que la situation se cristallise de plus en plus renforce également ces cristallisations ethniques qui font que certains ont l'impression qu'on doit gouverner chacun à son tour. Il y a eu presque tout le monde, sauf les peuples, voilà. Le peuple de la forêt, les soussous. Donc certains estiment qu'il faudrait que le pays soit gouverné tour à tour par chacune de ces ethnies. Ce n'est pas la conception que j'ai de la démocratie, ce n'est pas la conception, je pense, que la plupart des Guinéens ont de la démocratie. Donc il est important que ce pays, qui a été le premier dans le cercle des anciennes colonies françaises à dire non à la France pour obtenir son indépendance immédiatement, que ce pays tienne son rang sur le plan démocratique, en faisant une élection apaisée dans laquelle Alpha Condé, qui a joué un rôle très important en tant que principal opposant de son pays, à la fois à Sékou Touré et à d'autres, que ce président qui est aujourd'hui aux affaires sorte par la grande porte. Il est entré par la grande porte. On a parlé de l'année zéro de la démocratie en Guinée. Faut pas qu'il sorte par la petite porte en devenant celui qui s'est accroché au pouvoir et qui n'a pas su partir au bon moment et dans les meilleures conditions.
Donc vous pensez que le président Condé est en train de brader son héritage ou une partie de son héritage?
Je pense qu'il gagnerait à donner de la clarté à la fois dans son discours et dans la suite de l'action qu'il veut mener. Ce n'est pas une mort d'arrêter de diriger activement son pays. On le voit avec Mamadou Issoufou au Niger, qui non seulement a dit qu'il ne serait pas candidat, mais a également présenté le candidat de son parti, pas son successeur, mais le candidat de son parti pour postuler à la présidentielle qui va arriver. Donc je pense que c'est un signal qui est suffisamment fort pour que la Guinée puisse également prendre l'exemple dessus. Alpha Condé est quand même l'un des doyens, il a été le président des étudiants africains en France, il sait ce que ça représente que de vouloir apporter sa contribution à la bonne marche de son pays. Je pense qu'il devrait quand même avoir du souci à se faire par rapport à l'image qu'il veut laisser à la fois dans les générations qui viennent au sein de son pays, mais également sur l'image qu'il veut donner de son pays à l'étranger.
Oui, nous reparlerons tout à l'heure du cas du Niger. Luc Emayo, est-ce que, comme l'a dit Luc Emayo, le président Condé ne gagnerait pas à clarifier sa position, pour reprendre l'expression du président Macron?
Écoutez, il qui mériterait effectivement à clarifier sa position, puisqu'il a une double opposition. Il a une opposition traditionnelle des partis qui, à l'instar de l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Baouri et Sélou Dalan Diallo, on ne sait pas d'ailleurs qui a la légitimité à la tête de ce parti, ou des opposants traditionnels, je pense notamment à Sidi Touré, il a une nouvelle opposition de son gouvernement. Une bonne partie de ses ministres ont démissionné, n'étant pas forcément d'accord.
Notamment Cheikh Sakho, l'ancien ministre de la Justice.
Cheikh Sakho qui avait démissionné l'été dernier, ou je pense à Ousmane Kaba également, qui n'était pas associé et encore moins d'accord avec le changement constitutionnel que proposait le président pour, évidemment, faire ce troisième mandat les Guinéens ne sont pas forcément, d'ailleurs, tout à fait en symbiose, avec lesquels les Guinéens, pardon, ne sont pas totalement en symbiose, si on en croit le début de mobilisation.
Mais Emmanuel Dupuis, est-ce qu'il ne se pose pas, comme c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire, un problème de légalité, hein? Le président Condé n'a-t-il pas raison de vouloir une nouvelle constitution pour son pays? Celle actuelle date de 2010 et comporte des incohérences, et même certains opposants le reconnaissent.
Comme ça a été dit par Louis Kemayou, le juridisme ne cache pas ou ne peut pas remplacer la démocratie. À un moment ou à un autre, il faut savoir si les électeurs, si on leur donne de manière transparente, de manière cohérente, le choix de savoir si oui ou non ils veulent élire leur président Alpha Condé, qui représentait un espoir un peu douché par des résultats économiques laissés en berne, un peu remis en cause avec un certain nombre d'affaires de corruption, je pense notamment à l'exploitation des mines de bauxite qui a laissé beaucoup de traces en matière de corruption au sein même de l'État et d'une certaine façon distillée sur l'ensemble du territoire, et effectivement à la hauteur des enjeux. Ces élections arriveront en octobre 2020, elles seront précédées par des législatives en février 2020 qui ont été reportées déjà depuis septembre 2018, sans doute parce que le président Alpha Condé est rentré dans une logique de hyper-présidentialisation, pardon, comme on l'a évoqué précédemment avec la Côte d'Ivoire.
Mais pourquoi ne pas organiser un référendum pour trancher le débat, pour trouver une solution? Si le peuple ne veut pas d'une nouvelle constitution, eh bien le président Condé pourrait peut-être s'y plier.
Alors, effectivement, ce ne serait pas le premier à le faire. Le président Ouattara l'a fait précédemment pour changer cette constitution. Il lui donnait la possibilité de. La différence, c'est que le président en Côte d'Ivoire, ça a été fait bien avant le processus électoral. Là, ça donnerait vraiment l'impression que ça justifie le fait qu'il puisse d'emblée, une fois que le référendum sera gagné, puisque je pense qu'il le sera, avoir une justification pour pouvoir incarner ce troisième mandat. Mais je crois qu'il y a un autre élément, c'est que le président Alpha Condé, qui jouissait d'une très haute estime, à la fois par son combat militant, par rapport à l'image de ce pays qui a tenu tête, notamment par rapport au fait que il y a cette geste du président Sékou Touré qui reste très forte, mais également avec un soutien de moins en moins affirmé de ses voisins, avec une remise en cause de sa capacité à pouvoir, comme ça fut le cas durant les précédents mois, agir comme une certaine forme de mentor pour la résolution des conflits au sein de la CEDEAO, c'était l'exemple du Togo, et puis surtout, il faut aussi avoir cela à l'esprit, un changement de soutien. La communauté internationale est plus prompte à remettre en cause le caractère adémocratique du processus préélectoral, alors que d'autres pays, des nouveaux venus, et je pense notamment à la Russie, ont clairement dit qu'eux soutiendraient mordicus le président Alpha Condé, quoi qu'il en coûte ou quoi que le contexte électoral soit. Ce fut le cas à Sotchi, où le président Vladimir Poutine a rappelé, en appuyant, ça c'est de manière très, très affirmée, un soutien particulier au président Alpha Condé. C'est le cas par exemple aussi de l'ambassadeur russe en Guinée, qui a dit que si les sociétés étrangères ne pouvaient pas ou ne voulaient pas ou ne voulaient plus être candidates sur la reprise d'un certain nombre de rachat de mines, les sociétés russes, évidemment, étaient prêtes à les remplacer. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de retour à une certaine forme de centralisme démocratique qui est profondément ancré dans l'histoire et dans la légitimité, militante du président Alpha Condé. Mais la vraie question, et je ne sortais pas là, c'est est-ce qu'au XXIe siècle, en 2020, en l'occurrence en octobre 2020, quand les élections auront lieu, est-ce vraiment cela que cherchent les jeunes Guinéens si on leur donnait vraiment
sincèrement le choix ou la possibilité de choisir.
Voilà, je vous promets qu'on va organiser un débat dans les prochaines semaines sur le rôle de la Russie en Afrique. Rodi Koné, vu d'Abidjan, comment est-ce que vous observez les soubresauts en Guinée et les intentions du président Alpha Condé de se faire élaborer une nouvelle constitution?
Oui, je crois que ce cas il est véritablement intéressant et le peu de ce père, mon PDCE tout à l'heure a si bien fait ressortir ce mot que j'aime bien, une sorte de retour du centralisme politique. On observe, je dirais, pas seulement au cas de la Guinée, on parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, mais il faut regarder les cas précédents. On a vu toute cette histoire au Congo, et on parle aussi du Rwanda. Je pense qu'il faut restituer tout ça dans un contexte global de mutation des rapports géopolitiques, des rapports de force géopolitique, où la Chine et la Russie se positionnent progressivement comme des acteurs majeurs référentiels de plusieurs leaders maintenant africains. On se tourne beaucoup vers la Chine, on a plus des politiques d'émergence à l'horizon, tout comme à l'image des pays asiatiques. Et de là aussi, on veut en tirer un modèle de leadership centralisé et fort qui dure dans le temps. Donc il y a ce retour-là, mais qu'il faut lire un peu dans les changements, je dirais, de posture de la Chine qui émerge véritablement comme un leader mondial important. Et donc, dans cet entre-là, les leaders africains profitent également pour tenir un discours, à mon avis, anti-démocratique pour consolider également leur pouvoir. Le cas de la Guinée est assez intéressant parce que quand on la remet dans l'histoire récente, on voit très bien que c'est encore ces mêmes acteurs politiques qui, pratiquement depuis Sékou Touré, monopolisent la scène politique. Il reste encore fortement ancré sur des schémas ethnopolitiques.
Comme en Côte d'Ivoire, quoi, en somme.
Voilà, comme en Côte d'Ivoire. Et cette notion ethnique, elle est très apparente dans le politique. En Guinée, entre, je dirais, une communauté malinquée incarnée par le président actuel et l'opposition qui se structure autour de la majorité peuple et les sous-sous. Qui jouent pratiquement les arbitres avec les forestiers, et ainsi de suite. Donc là, cette notion malheureusement fragilise et ne donne pas une certaine chance au processus démocratique en tant que tel d'être approprié par l'ensemble des acteurs.
D'accord.
Malheureusement, le désir du président Alpha Condé de se représenter va remettre encore au goût du jour tout cela et comporter qu'il est dans cet environnement international qui pourrait être malheureusement plus un soutien solide ou simple.
On va aborder rapidement le cas du Niger. Hein. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Luc Mayo. Apparemment, c'est le bon élève de la sous-région.
Oui, même si la transition ne se fait pas toujours, c'est déjà un bon pas à chaque fois. Et je pense qu'il faut encourager les signes de démocratisation et de renforcement de la démocratie, surtout dans les pays africains. On peut être dur, comme on l'a été vis-à-vis à la fois du Togo, de la Côte d'Ivoire et d'autres, la Guinée. Mais quand il y a des signes intéressants comme ceux qu'est en train de montrer le Niger, il faut le saluer. Le pays n'est pas très riche, il n'est pas très en sécurité aujourd'hui à cause de la menace djihadiste qui est à ses portes. Mais le fait est que le président Issoufou a pris ses responsabilités et a décidé de quitter le pouvoir, quoi qu'il arrive, à la fin des mandats qui lui ont été confiés. Et je ne peux que le saluer.
D'accord. Emmanuel Dupuis, très rapidement, en 30 secondes, le Niger est un bon élève.
Un bon élève, mais un élève sous tension, hein, avec une gageure, évidemment, ça a été évoqué par Louis, un pays qui évidemment est pauvre, qui fait face à plusieurs fronts terroristes, avec la frontière libyenne, avec dans la région de Diffa, avec Boko Haram, et puis on l'a vu malheureusement avec les 71 morts il y a quelques semaines à Inates, pas très loin évidemment de la capitale, laissant craindre qu'il y ait un phénomène à peu près équivalent à celui qui, en 2013 au Mali, avait tiré la sonnette d'alarme, avec là aussi une élection qui va arriver dans un contexte très particulier, où quasiment 20% du budget est consacré à l'effort sécuritaire. C'est cela en moins pour d'autres budgets tout aussi importants qui permettent à un pays qui a une démographie qui est la démographie entre guillemets la plus croissante ou la plus rapide dans la zone sahélo-saharienne.
En moyenne 7 enfants par femme. Hein.
7,7 enfants par femme qui est un élément supplémentaire. Donc des enjeux tout à fait considérables, avec là aussi, je m'inscris tout à fait dans la ligne de ce qu'a dit Louis, une volonté non pas de désigner son successeur, puisque Mohamed Bazoum, le ministre de l'Intérieur, est le candidat du parti présidentiel, le Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme, et non pas le candidat du président Issoufou, avec là aussi, il faut peut-être s'en désoler, puisqu'on va rejouer, comme lors de la dernière présidentielle, avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre Ahmad Amadou, qui était revenu au pays il y a de cela quelques semaines, et qui a été embastillé, comme la dernière fois, et qui, j'espère, pourra faire son élection, contrairement à ce qui fut le cas, il y a 5 ans, non pas en prison, mais bien évidemment libre de toute entrave et de toute contrainte, donc permettant effectivement de véritablement dire que le Niger est le bon élève dans la région.
On espère qu'Ama Amadou sera éligible. Rodrigue connaît le cas du Niger, qu'est-ce que cela vous inspire?
Oui, bon, je pense que tout a été résumé, mais il faut qu'il y ait effectivement le respect jusqu'au bout des principes démocratiques. Il faut laisser l'opposant, l'ex-chef de l'Assemblée nationale, concourir de façon plus libre à ces élections. Je crois que ce serait l'un des défis pour le Niger, sans oublier l'environnement sécuritaire dont on parlait tout à l'heure, qui est véritablement préoccupant, parce que le Niger est compris entre le marteau et l'enclume entre Boko Haram et les mouvements qui sont du coup à sa frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Et je pense que l'un des plus gros enjeux également dans ces élections, c'est un peu cette situation socio-économique difficile d'un pays démographiquement important avec une forte jeunesse, et sans oublier aussi des conflits communautaires qui se déroulent justement dans les zones où il y a ces offensives de ces groupes djihadistes qui instrumentalisent, qui capitalisent sur les inégalités qui sont présentes au sein des communautés et qui montrent véritablement qu'il y a un gros défi en termes de développement, de stabilité pour le Niger. C'est vrai que c'est parmi les pays de la zone sahélienne, du Sahel en général, ce pays est quand même a été plus ou moins réuni par rapport à sa politique de gestion un peu des communautés de façon plus intégrative que les autres pays, mais il reste d'énormes défis en termes de sécurité, et je pense qu'une élection comme celle qui va venir devrait permettre de pouvoir en profondeur gérer un peu ces dynamiques structurantes qui peuvent à long terme déstabiliser un pays qui fait figure de bon élève en matière de
démocratie. Voilà, la République centrafricaine également organisera la présidentielle d'ici la fin de l'année, en décembre, Luc Mayo, avec le retour de François Bozizé. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais apparemment la scène politique centrafricaine également est en ébullition. Hein.
Oui, la République centrafricaine est un peu ce qu'est le Niger, et à l'Afrique centrale ce que le Niger est à l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est un élève qui est malade depuis très longtemps. Il y a eu très peu de régimes stables, à l'exception de la période Bozizé, qui a eu plus d'une dizaine d'années sans coup d'État. La plupart du temps, il y a eu des périodes d'instabilité très longues, et tout cela n'a pas permis d'avoir une politique sur le long terme de développement du pays. Donc, espérons que Touadéra, pour son mandat, qui a commencé difficilement, arrivera à terme et surtout organisera des élections qui seront incontestées, parce qu'elles seront inclusives, et que le président Bozizé, qui est revenu, ne jouera pas la deuxième mi-temps du combat avec les anciennes CEDECA qui l'ont chassé du pouvoir. Donc j'espère simplement que la République centrafricaine aura ce répit qui permettra aux autorités de se pencher pour une fois sur les intérêts supérieurs des populations. C'est ce qu'elles attendent, et j'espère que c'est ce que la classe politique leur apportera.
D'accord. Emmanuel Dupuis, on voudra bien parler du cas du Burkina. Soyez un peu plus bref par rapport à la République centrafricaine.
Oui, écoutez, le Burkina, évidemment, est particulièrement sous tension. d'une certaine façon, comparaison n'est pas raison, mais néanmoins, la situation sécuritaire fait que le président, Christian Marc Roch-Kaboré, est dans une situation, évidemment, où il ne peut faire autrement que de faire appel à la communauté internationale. Donc, en gros, il y a une forme, d'une certaine manière, d'incapacité à pouvoir assumer sa fonction régalienne de président, qui aura un impact, évidemment, là aussi, sur le prochain processus électoral. Maintenant, la situation fait que ces élections risquent d'être peut-être reportées, justement parce que le contexte politique ou le contexte sécuritaire est à peu près ce qu'était celui qui avait apporté, qui avait autorisé l'utilisation de la force par la communauté internationale au Mali. On dit que 25% du territoire burkinabé ne serait plus entre les mains, ou ne serait plus en capacité, serait sorti de la capacité régalienne de l'État à assumer sa responsabilité. On parle de 450 000 personnes qui auraient fui leur foyer, avec l'incapacité évidemment d'ouvrir des services publics dans des zones qui, entre guillemets, sont devenues de facto, notamment dans la région des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina, des zones où les groupes armés terroristes ont remplacé l'État. Donc c'est un enjeu tout à fait considérable, avec là aussi, peut-être de la part de la communauté régionale, une solidarité de facto que l'on espère avoir ou attendre vis-à-vis du Burkina Faso, comme ce fut le cas avec le Mali en 2013.
D'accord. Rodrigue connaît le cas du Burkina Faso.
Oui, c'est un cas qui est véritablement inquiète. Hein, et c'est un ancien voisin direct de la Côte d'Ivoire. Et c'est un cas qui inquiète un peu. Je dirais que la société burkinabé n'a pas su jusqu'à présent faire cette transition-là entre le pouvoir de Blaise et les nouvelles autorités qui se sont installées, qui restent pour une grande majorité. Issus un peu de l'élite qui était proche du pouvoir de Blaise Compaoré. Mais je pense que le plus gros défi reste véritablement la manière dont, je dirais, l'État burkinabé a donné réponse, je dirais, ou les nouvelles autorités ont donné réponse articulée de changement à cette volonté de transformation en profondeur de la société burkinabé. Je pense qu'elles n'ont pas eu le temps, avec cet environnement sécuritaire qui s'est dégradé, de pouvoir faire face aux véritables défis de développement qui étaient ce qu'attendait la jeunesse burkinabé. Malheureusement, le contexte dans lequel ces élections vont se dérouler n'est pas un, c'est véritablement pas un contexte serein. Il n'est pas serein et cela arrive malheureusement de se dérouler avec beaucoup plus de tensions qu'on aurait souhaité.
D'accord, on n'a pas eu le temps d'évoquer le cas de la présidentielle au Burundi prévue en mai. On n'a pas également eu le temps d'évoquer les élections législatives, par exemple au Cameroun en février, au Tchad également, c'est prévu dans le courant du premier semestre. Le temps nous fait défaut. On aura peut-être l'occasion de développer dans nos programmes tous ces scrutins. Merci en tout cas, chers invités, d'avoir analysé, développé donc vos idées par rapport au continent, le Togo, la présidentielle au Togo en février, en mai au Burundi, fin octobre en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, même si c'est incertain, en République centrafricaine, en Guinée, au Niger. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes voeux de bonne et heureuse année 2020.
On va continuer de faire la fête, hein. Avec Philippe Lagile et Jocelyne Béroir, on continue également à coller serré.
Je pense qu'on va continuer donc à faire la fête. En tout cas, merci beaucoup encore une fois et à très bientôt sur.